France Culture, le dimanche à 22h, une fenêtre s'ouvre sur la création et sur l'imaginaire. Aurélie Charron.
L'expérience commence. Il n'y a pas un silence, mais des silences. Le silence devrait se dire au pluriel, puisqu'au cours d'une même journée, il n'a jamais la même existence ni la même forme. Adrien Chevrier propose un jeu radiophonique, une rencontre entre ses interlocuteurs et leur silence. Il leur propose de les faire vivre. On n'entre pas dans un silence de mort, mais dans un silence de vivant. Un silence qui donnerait aux mots l'envie d'arriver encore, même si on les a déjà tous utilisés. On a perdu la partie quand on ne parle plus que pour répondre ou réagir. On a gagné quand on a recréé du vide ou de l'épaisseur avant de parler, ou avant de permettre à quelque chose de se faire entendre. Nos silences, la cassette, l'arbre et l'enfant, par Adrien Chevrier, réalisation Gaël Gillon.
Parce qu'elles ont le sens du jeu, sans doute, ou par curiosité, toutes les personnes que vous allez entendre ont accepté de nous rencontrer sans savoir ce que nous voulions leur demander. Nous leur avions simplement proposé de participer à une tentative radiophonique qui supposait qu'ils ne connaissent pas, à l'avance, la question que nous voulions leur poser. Ils la découvriraient au début de l'enregistrement. Quant à nous, une fois la question posée, nous resterions silencieux.
La question c'est qu'est-ce que c'est pour vous le silence, André Markovitch, et est-ce que vous pourriez nous en raconter un ?
C'est une vraie réponse.
Mais je la prends comme telle, évidemment.
Je suis pas désolé de vous avoir fait venir pour 15 secondes, mais pour 20. Mais imaginez ce que ça aurait été si j'avais duré une minute.
Oh, vous auriez pu, hein.
Ah ben oui, oui.
Je pourrais rester à rien dire pendant 5 minutes, ça serait déjà un bon silence.
Parler comme si c'était tout naturel. En parler de ce gamin-là et des autres qui lui ressemblent. Alors que nous avons tout fait pour nous en passer du langage. De ce fameux langage qui nous fait ce que nous sommes. Et maintenant, il faut lui rendre des comptes. Mutique, ce gamin-là, alors, à quoi se fier ? À quoi se fier lorsqu'il fait défaut ? Le langage.
Vu la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant, pendant fort longtemps et des dizaines d'années, j'ai vécu avec des enfants, des adultes mutiques, complètement mutiques, autistes. J'ai passé des longs moments dans le silence, sans s'adresser à qui que ce soit, puisque le quotidien, les gestes entre les uns et les autres, avec qui je vivais en permanence, hein, bien sûr, dans la même maison et tout au long de l'année, ces habitudes, ces gestes suffisaient largement à ce qu'il y ait quelque chose entre nous, autre que la parole, puisque de toute façon, eux, la parole, ils ne l'avaient pas. Donc ces longs moments silencieux, sauf bien sûr silencieux, certains font des bruits avec leur bouche, avec des petits cris ou des petits machins, mais c'est si on entend le silence quand ça parle pas, disons. Voilà, c'est des longs moments où j'ai vraiment apprécié quoi, tout au long de cette vie avec eux, tranquille.
Toutes les femmes de mes livres ont habité cette maison. Toutes. Il n'y a que les femmes qui habitent les lieux, pas les hommes. Quelquefois, quand j'y entre, j'ai le sentiment comme ça d'un foisonnement de femmes. Elle a été habitée par moi aussi. Complètement. Je pense que c'est le lieu du monde que j'ai le plus habité. Et quand je parle des autres femmes, je pense que ces autres femmes me contiennent aussi. C'est comme si elles et moi, on était doués de porosité. La durée dans laquelle elles baignent, c'est une durée d'avant la parole, d'avant l'homme. L'homme, quand il ne peut pas nommer les choses, il est dans la perdition, il est dans le malheur, il est désorienté. L'homme est malade de parler. Les femmes, non. Toutes les femmes que je vois ici se taisent. D'abord. Après, je ne sais pas ce qu'il en adviendra. Mais elles commencent par se taire, longuement. Elles sont incrustées dans la pièce, comme insérées dans les murs, dans les choses de la pièce. Je parle du silence des lieux, sans doute.
Celui que je peux le plus toucher en le racontant, c'est celui qui précède juste la première note que je joue au violoncelle. Il est ce type de silence qui est une fin et un début. Et donc il est au point de jonction. Ce qui s'est passé laisse la place à autre chose qui sera ce son. Et celui-là, il est très, très... Il est épais comme silence. Il est très... Oui, comme je disais tout à l'heure, il est habité.
Le silence, c'est mon affaire. Parce que je suis ce qu'on appelle une sourde profonde. C'est une chose terrible qui te donne un sentiment de ne plus exister. C'est de ne plus avoir de repères, de ne plus savoir où tu es. Ça, c'est un silence terrible. Mais le moment où le matin, tu te réveilles sans prothèse, dans le silence absolu, que tu n'entends pas le bruit de ta pendule, que tu reposes sur l'étagère, qui ne fait pas clac quand on lui pose quelque chose de dessus, c'est très, 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 très impressionnant. Sinon, le silence le plus terrible que j'ai jamais entendu, c'est celui qui sépare le boato du tremblement de terre. Alors on entend d'abord les chiens qui aboient dans la vallée. Et puis tout d'un coup commence cet horrible gémissement. Et après quoi commence le tremblement de terre. Mais entre ce boato et le tremblement de terre, il y a quelques secondes de silence absolument effrayant.
Si. Marsupial amor, mamilos, tilão, preias, presas, canino, Amor. Torres de Talismã.
Gulen, gutural, amante em tênebras, febras de februário, femural, mortala, mortauri, feroz, e foz, paz, psssio.
J'entendis sonner minuit.
Le silence.
Puis une heure.
On dit faire silence. Alors voilà, je pense tout de suite à Pascal. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. On découvre, on comprend qu'il y a autour de la Terre des, ce que Pascal appelle les espaces infinis. Et qu'il n'en vient rien, qu'on n'en entend rien. C'est aussi déjà chez Pascal lui-même, tellement chrétien, une manière de rompre peut-être avec une certaine tradition chrétienne, dans la judéo-chrétienne, dans laquelle la nature entière chantait la gloire de Dieu. Là, on n'entend plus rien. C'est aussi d'ailleurs une manière, je me rends compte, de rompre avec quelque chose de plus ancien, avec la tradition grecque de penser l'espace autour de la Terre, comme formé de sphères qui tournent les unes dans les autres et ce qui produit une certaine musique, appelée la musique des sphères.
Vous avez peur de vous arrêter de travailler ? Ça vous fait peur de vous arrêter de travailler ?
Pourquoi voulez-vous que je ne me fasse peur ? Rien ne fait peur, ni même la mort ne fait pas peur. C'est qu'on a fait notre passage, on doit mourir, on doit s'arrêter de travailler, et voilà. Quand on ne peut pas, on ne peut pas.
La question, Claudine Nougaret, Raymond Depardon, la question c'est, qu'est-ce que c'est pour vous le silence, et est-ce que vous pourriez m'en raconter un ?
S'était-il assis ? Allumait-il une cigarette ?
Mais vous y pensez ?
Comment ?
Vous y pensez souvent de vous arrêter de... Enfin, un jour vous ne pourrez plus venir ici avec vos brebis ?
Oui, ça arrivera. Non, vous, ça vous arrivera de vous arrêter. Je ne vous le souhaite pas, mais enfin ça vous arrivera quand vous aurez 80 ans ou plus, un jour que vous n'aurez pas envie de... Oui, mais que vous n'y verrez pas.
Pourquoi ça m'arrive avant moi.
Non, moi. Il était là, tout proche, à un mètre de moi. Souffrir. Il faisait demi-tour.
Comme tout le monde, c'est la souffrance.
On est vécu ensemble, ça c'est mieux.
Je savais que tu allais rompre le silence, le premier.
Non, mais un silence qu'on a connu ensemble.
Bah, moi, c'est des silences sur le film La vie moderne.
Oui.
Des silences avec les paysans, comme ça on s'installe. Et puis ils attendent qu'on pose des questions, puis on n'en pose pas, et puis un silence. Et puis au bout d'un moment, fatigués de ne pas nous voir poser des questions, ils se mettent à parler tout seuls. Et ces silences, comme ça, c'est extrêmement. C'est très ténu, comme ça, on se demande qui va le briser. Et j'ai toujours trouvé ça très beau. Souvent, il y a une pendule qui fait tic-tac à côté. Et c'est juste avant qu'il se passe quelque chose, quoi. Et j'ai des souvenirs comme ça de tournage dans les cuisines, où on fait beaucoup de bruit parce qu'on s'installe avec le matin, et puis tout d'un coup, silence. Et puis on dit rien. Et on laisse les gens démarrer tout seuls. Et le silence qui précède est toujours très beau. Marcel, dans le chant aussi, quand il va nous dire c'est la fin, c'est du silence, on a du silence parce qu'il y a du vent dans les herbes. Il y avait une qualité de silence entre nous. Il n'y avait pas d'inquiétude, quoi.
seul, je serais peut-être resté là.
C'est surtout qu'on s'est agenouillé à côté de lui. Et puis on a attendu. Et puis il disait rien, et nous on disait rien. Et puis au bout de, je sais pas, au moins 5 minutes.
4-5 minutes.
4-5 minutes, il a dit c'est la fin. C'est fini. Et ce c'est la fin, qui est arrivé après un long silence avec le vent dans les herbes, c'est quelque chose de très très beau dans mon souvenir.
Justement, je pense que, et comme on n'est pas du journalisme, on n'est pas. On ne veut pas poser de questions. Il faut que la parole vienne d'elle-même par ce silence et par ce biais. Et effectivement, moi je sais que j'avais une optique un peu genre passe-partout, 35-50, comme en photo. Et on ne voit pas le ciel. On est en contre-plongée sur lui qui est assis dans l'herbe. On est à un mètre, nous. Et je sais que il ne faut pas avoir peur du vide. C'était un instinct qui faisait qu'il était un peu reboussier. C'est un terme qui est du Cévenol, l'Occitan, hein, et qui dit que voilà, on peut penser que c'est quelque chose un petit peu de paysan, mais non, c'est quelque chose qui vient de sa culture, du Massif central, de la religion protestante, de la solitude, quelque chose qui profondément fait que, voilà, il parle pas facilement, et quand il m'a même dit, mais un jour vous arrêterez de filmer quand même, vous n'allez pas filmer toute votre vie, c'est un peu moquer de moi, quand même. C'est même plus que moquer de moi d'ailleurs.
Dans une île, à quelques kilomètres au large, un homme vient de passer plus de 20 ans enfermé dans une cellule. Cet homme s'appelle Nelson Mandela. Aujourd'hui, loin de l'actualité, bien que l'apartheid soit aboli, il doit toujours faire face à des conflits sociaux et aux inégalités raciales de son pays. J'ai eu la chance de le rencontrer juste avant qu'il ne devienne le premier président noir de l'Afrique du Sud. Impressionné par l'homme, je n'ai pas voulu le faire parler. Je lui ai juste demandé une minute de silence.
Et cette minute, il l'a complètement maîtrisée. Je n'avais pas de chronomètre, et lui non plus. Il était dans son bureau, et il a géré la minute comme s'il avait un chronomètre dans sa tête. 27 ans de prison, ils sont pour quelque chose. Il connaît le temps. Il a la valeur du temps. C'était un peu osé de ma part de lui redemander une minute de prison. Une minute de silence, une minute de son passé, une minute de douleur, une rémunérescence de sa terrible expérience. Chaque photographe a son repère. Sarah Moon dit Mississippi 1, Mississippi 2 pour une seconde.
J'ai entendu sonner 4 heures.
Elle me semble pas très loin de la vérité. Quand je tirais mes photos il y a très longtemps, je comptais 200, 201, 202, 203.
Le temps passait, nos chances diminuaient.
Si ma mère me voyait.
Oh. convivial. Qu'est-ce que le silence pour vous? Et est-ce que vous pourriez nous en raconter un?
Alors, le silence.
Dans l'histoire des concerts du Maverick, l'événement le plus célèbre eut lieu tard dans la soirée du 29 août 1952. La première de 4 minutes 33 de John Cage.
Faudrait faire taire quelque chose, quoi.
C'est ça. Le pianiste David Tudor s'assit au piano sur la petite scène en bois, rabattit le couvercle du clavier sur les touches et regarda son chronomètre.
Faire taire quelque chose à l'intérieur de soi, ce serait plutôt ça.
Il souleva et rabattit le couvercle deux fois durant les 4 minutes suivantes, en prenant soin de ne faire aucun bruit audible tout en tournant les pages de la partition dépourvues de notes.
Donc à part le sommeil, et encore.
Après que 4 minutes et 33 secondes se furent écoulées, Tudor se leva pour recevoir les applaudissements du public. Des années plus tard, Cage écrivit ainsi les sons perçus durant l'interprétation de 1952, qui s'organisaient aisément en trois mouvements parallèlement à la structure donnée à la pièce. Ce qu'ils ont pris pour du silence, parce qu'ils ne savent pas écouter, était rempli de bruits au hasard. On entendait un vent léger dehors pendant les premiers mouvements. Pendant le deuxième, des gouttes de pluie se sont mises à danser sur le toit. Et pendant le troisième, ce sont les gens eux-mêmes qui ont produit toutes sortes de sons intéressants, en parlant ou en s'en allant.
Ça se tairait dans le frottement avec le monde extérieur. Ça... Donc ce serait comme une forme d'harmonie, mais... C'est ça, il faudrait que penser et vivre soient exactement sur la même... soient vraiment au diapason l'un de l'autre. C'est-à-dire que ça peut passer par exemple par une pensée ou par une image. Par exemple, je sais pas, ça peut être devant un tableau, ça peut être devant un paysage, etc. Mais à chaque fois, c'est le moment où on se dirait « c'est ça ». Mais on ne le dirait même plus parce qu'on serait ravis. C'est-à-dire comme ça marche que par contraste, il faudrait presque imaginer les endroits les plus bruyants, une foule, ou les endroits qui sont censés produire de... Par exemple, comme le morceau de John Cage, quoi. 4 minutes 33 de silence. C'est-à-dire que ça ne marche que parce que c'est joué quelquefois dans les concerts. C'est, par exemple, un orchestre est là, et évidemment, il fait le contraire de ce qu'il doit faire, il se tait. Et donc, tout d'un coup, on peut s'engouffrer dans un endroit qui ne fonctionne que par paradoxe, enfin... J'essaie d'imaginer un endroit où tout d'un coup tout parle, c'est ça, comme chez Novalis, quand il dit tout parle. C'est-à-dire c'est là où ça revient à cet état un peu d'extase ou de paradis des choses, quoi. On est là, et tout d'un coup tout est bruyant autour de nous, tout fait sens, tout parle, et donc on dirait que les pensées se déposent une à une sur chacune des choses. Sans produire de différence, en fait. C'est-à-dire que ça crée un état d'indifférence. Bon. C'est vrai que je pense à ce morceau de John Cage, hein, qui est quand même merveilleux, parce qu'il y a une vidéo où on peut le voir, par exemple, où... Donc, bon, ils ont fait... C'est un concert normal, il y a eu plusieurs morceaux, et puis tout d'un coup, il y a ce morceau-là qui va commencer, le chef lève les bras comme ça, comme s'il allait commencer un morceau, puis en fait, il reste les bras en l'air. L'orchestre est hyper concentré, tout le monde se prépare. Ça dure 4 minutes 33. Et à la fin des 4 minutes 33, le chef baisse les bras. Et la salle applaudit. Et c'est très très émouvant en fait, parce que... Je sais pas, c'est comme si on s'était tous engouffrés dans une espèce de brèche spatio-temporelle, mais qui est aussi celle très communiante en fait, où... Alors évidemment, ça a un défaut, c'est que c'est un peu, c'est exceptionnel, mais c'est un peu aristocratique aussi. C'est-à-dire, il faut que ça se départisse du commun des choses, en fait. Voilà. pour... bon, c'est l'ambivalence du truc, mais... Vous connaissez ce morceau? Vous allez le passer dans l'émission, peut-être.
C'est beaucoup, 4 minutes 33.
C'est long, 4 minutes 33, ouais. Ouais, ouais.
J'aimerais rajouter une petite anecdote. Mon père était à New York, 1941, 42, 43, par là. Et il allait souvent écouter des concerts. Et il est allé un jour dans un espèce de lieu un peu grand, qui devait être peut-être un ancien garage. Et il y avait John Cage et quelques musiciens, peut-être déjà David Tudor, je ne sais pas, qui jouaient un morceau, et dans la salle, il y avait peut-être 30 personnes. Et tout le monde dormait.
Bon, les choses s'organisent d'elles-mêmes. Il faut d'abord que je vous explique cette entrée en matière. Notre invité d'aujourd'hui au cinéma des cinéastes s'appelle Léos Carax. Et Léos Carax est arrivé avec un petit magnétophone. Faut-il, Léos Carax, vous demander une explication?
Ben... Ah. Si.
Si, alors, le magnétophone est là.
Ah, que les hommes ont donc la mémoire courte. Se peut-il qu'en devenant des pères, ils oublient aussitôt qu'ils ont été des fils?
Le jour où tu viendras...
Je regarde ma montre, ce bracelet montre qui continue à vivre au bras des soldats tués, qui poursuivra son tic-tac dans quelques minutes sur mon cadavre. Et j'avais tant de choses à vous dire. Et je ne les ai pas dites. Et il me semble bien qu'il ne me reste pas le temps de vous les dire, et peu importe, puisque ces mots que je dirai n'ont pas plus de réalité que le reste.
Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, ne prends pas tes bagages comme un porte après tout ce qu'il y aurait dedans. Je te reconnaîtrai à lire ton visage. Il y a tant et tant de temps que je t'attends, tu me tendras les mains. Je n'aurai qu'à les prendre et consoler les voix qui pleurent dans ta voix. Je t'apprivoiserai les lumières éteintes, tu n'auras rien à dire. Je reconnaîtrai bien le tout petit garçon, le dragueur solitaire qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus, qui ne savait jouer qu'aux billes ou à la guerre, qui avait tout donné mais n'avait rien reçu. Si je venais vers toi, je viendrais sans bagage, que t'importe après tout ce qu'il y aurait dedans, tu me reconnaîtrais à lire mon visage. Il y a tant et tant de temps que tu m'attends, je te tendrai les mains, tu n'aurais qu'à les prendre et consoler les voix qui pleurent dans ma voix. Tu m'apprivoiserais les lumières éteintes, je n'aurais rien à dire, tu reconnaîtrais bien la toute petite fille aux cheveux en bataille qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus et qui aimait la pluie, le vent et la paille et le frais de la nuit et les jeux défendus. Quand viendra ce jour-là, sans passer, sans bagage, nous partirons ensemble vers un nouveau printemps qui mêlera nos corps, nos mains et nos visages. Il y a tant et tant de temps que l'on s'attend. À quoi bon se redire les rêves de l'enfance? À quoi bon se redire les illusions perdues? Quand viendra ce jour-là, nous partirons ensemble, à jamais retrouvés, à jamais reconnus.
La langue pendue, c'est à nous qui t'ont donné là-bas?
Non, c'est mes parents, Jean et Valérie, par blague. J'étais un enfant, dangereusement silencieux, il paraît. Je gardais le silence, mais c'est faux. C'est le silence qui nous garde.
Les hommes silencieux, ça met mal à l'aise. On les croit forcément génies ou abrutis.
Bon, parlons.
Quand tu veux. On m'avait confié un cours
Un cours, je faisais ce que je voulais, avec qui je voulais. C'était un cours assez étonnant où il y avait des étudiants de tous les niveaux, depuis la première année jusqu'au doctorat, et de toutes les disciplines. Et du coup, j'avais décidé de faire un cours qui ressemblait pas du tout à ce qu'on fait d'habitude, ce qui était un cours d'écoute. Donc c'était des séances qui duraient assez longtemps, ce qui durait 2 heures. J'arrivais, je ne disais rien. Et puis je m'ai déclenché soit une projection d'un morceau de film ou de photo auquel succédait un morceau de musique. Et puis parfois je lisais un texte ou un poème. J'avais donc fait un montage et je ne disais rien. Rien du tout. Je ne disais pas, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Non, rien. Et donc ça se terminait. Et eux, ouais, eux-mêmes ne disaient rien. Il n'y avait pas de questions. Il n'y avait pas de. Il n'y avait rien. C'était. Ces séances étaient entourées d'un grand silence. Et la dernière séance s'est passée comme ça. Le montage était plus court. Et puis j'ai rien dit non plus. Et je leur avais demandé de prolonger ce qu'ils avaient vu. Et là, ce long silence, puisque au fond, ce cours avait été un long silence toute l'année. Et ils m'ont tous dit que pour eux, ça avait été une expérience qui leur avait permis de je ne sais pas comment dire, mais de donner une autre tonalité à la totalité de leurs autres enseignements. Ils venaient là une fois par semaine et ils vivaient quelque chose qui leur permettait de relire, de réentendre, de réétudier dans des disciplines très diverses. Ce qu'il faisait avec un autre. Il tenait beaucoup à ces séances-là, au cours desquelles apparemment il ne se passait rien. En fait, il se passait tout.
Quelquefois, je file un silence pour te remettre en question. Je pense même que dans mon questionnement, dans l'exercice de mon métier, j'essaye de produire des silences. Je pense qu'un questionnement doit reposer aussi sur la surprise, précisément pour laisser la chance au silence. Je me souviens un jour d'avoir entendu une réalisatrice qui écrit aussi des romans, que je ne vais pas citer, qui parlait trop bien de son livre. Beaucoup trop bien, c'était suspect. C'est comme si elle recouvrait en fait les silences de son texte. Et ça, c'était un problème pour moi, ça cachait quelque chose. Je me rends compte que l'expérience de la vie, c'est aussi l'apprentissage de l'acceptation du silence, avec quelqu'un notamment. Au début, on essaye de remplir les vides, on est mal à l'aise quand un ange passe, c'est ce que disait ma grand-mère, un ange passe. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on parvenait à accepter les silences dans un couple ou même dans une famille, c'est que quelque chose s'était produit. Et c'est pas facile. Moi, je viens d'une famille où on parle énormément de tous les sujets. La parole est même dangereusement libre. Mais il y a quand même des silences. Les choses qu'on ne peut pas dire. Et ces silences, en fait, ils prennent toute la place. Donc, si ça se trouve, je dis qu'on parle de tout, mais on parle de rien.
Alors, je vais commencer par le premier truc qui m'est venu. Je me suis tout de suite dit que c'était de l'épaisseur. Comme s'il y avait une matière entre deux points. Et j'ai pas tout de suite pensé à deux personnes. J'ai pas tout de suite pensé au langage, en fait. J'ai pensé au silence comme quelque chose qui existe dans le monde vivant et qui n'intervient pas forcément entre deux humains, ni entre deux humains qui se parlent. Et ça m'est apparu comme un truc, une matière, donc que tu peux modeler, Tu peux entrer dedans sans trop l'embêter. Tu peux le contourner. Et c'est aussi une épaisseur qui renvoie pour moi à une épaisseur de temps, à la fois pour le temps que dure le silence, mais aussi généralement pour l'épaisseur temporelle qui a contenu dans du silence. Parce que pour moi, le silence, c'est toujours la révélation que le présent, il est feuilleté de passé, de présent, de désir et de futur. Et du coup, pour moi, à chaque fois, le silence, c'est le moment où apparaît ce feuilletage-là. Donc c'est aussi cette épaisseur. Le deuxième chose que j'ai écrit, c'est la relation. Donc là, on est arrivé vers les humains. Et comme j'ai dit au départ, l'épaisseur entre des choses, donc c'est de la relation entre des choses et entre des humains, mais aussi, pourquoi pas, avec un cerf, avec un cheval, avec un arbre, avec la mer, avec ce que tu veux. C'est une manière d'être en relation. Je pense que c'est un endroit d'où naissent les questions, pour moi. Je pense que c'est aussi un endroit où on peut dire que naît la parole. Quatrième petite étoile, c'est de l'émotion. Quand t'es au théâtre ou au musée, où en fait il n'y a pas de silence réel d'un point de vue sonore, mais il y a un silence de ton attention, de ta disponibilité. Parce que c'est aussi un silence intérieur, quoi. Tu tais des choses en toi pour te rendre disponible, ou tu les tais pas, mais c'est un peu en sourdine et ça laisse entrer d'autres choses, quoi. C'est aussi de la place. Le 1, 2, 3, 4, 5e étoile. J'ai écrit, c'est un truc qu'on apprend. Donc évidemment, c'est un truc qu'on apprend à la radio. Et je pense qu'on l'apprend par beaucoup de calme, en fait. De la confiance dans l'autre, dans la parole, dans le dispositif qu'on a inventé. Et alors, vous en racontez un. Je vais dire évidemment un silence qui est très récent là dans ma tête et dans mon cœur. Quelqu'un qui m'est très proche voit vaciller la santé et le corps et l'autonomie de quelqu'un qui lui est extrêmement proche. Et il y a 2 jours, il m'a dit... Marie, lorsque je l'ai rasé, j'ai... Et il s'est arrêté. Et j'ai bien vu que c'était pas possible de continuer ce récit. Et moi, j'ai vraiment vu l'image de cette personne qui m'est très proche raser le visage de cette personne qui lui est très proche. Et j'avais toute la scène et j'avais vraiment l'immense intimité, le grand vertige, la très grande fragilité, la très grande préciosité de cette scène. Et toute cette matière de silence, de ce que cette phrase s'interrompait là, et me livrait quand même.
Alors, je vous rappelle le principe. Nous allons vous poser une et une seule question seulement. Prenez tout votre temps pour y répondre. Nous resterons silencieux. Nous ne ferons pas de relance. Et puis quand vous jugerez que vous y avez répondu ou que votre question vous semble satisfaisante, faites-nous un signe et on arrêtera l'enregistrement. Et la question c'est, qu'est-ce que c'est pour vous le silence? Et est-ce que vous pourriez nous en raconter un?
Moi je travaille beaucoup avec le silence. Il y a quelque chose qui s'entend dans le silence. C'est un peu comme la respiration entre les mots qui permet à chacun des mots de résonner. À la fois pour que on puisse entendre ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'il n'arrive pas à énoncer, à dire. On ne sait pas où est-ce qu'on va arriver, parce que le silence c'est à la fois une fermeture, mais une incroyable ouverture à ce qui pourrait être dit. Du coup, ça fait peur à un peu tout le monde, mais à certains en particulier, de façon importante, voire massive, au point qu'il y en a qui parlent tout le temps. Et du coup, on ne peut plus rien entendre de leurs paroles. C'est comme s'il y avait une parole qui s'étouffait elle-même de ses propres mots parce que elle prend pas le point d'appui sur le silence, le souffle du silence. En fait, c'est ça, le silence, ça fait résonner le non-dit du dire. Alors, c'est si je peux raconter un silence, c'est un silence de mon père qui n'a pas réussi à dire quand il était malade qu'il était malade, au point qu'il allait mourir. Et comme si à un moment donné, j'ai pensé que c'était comme si un enfant pouvait pas l'entendre, mais je pense que c'est... Maintenant, je pense que c'est plus parce que lui pouvait pas y croire d'une certaine façon. Et c'est un silence, alors qui m'appartient pas, et que je mets sur lequel et avec lequel j'ai tenté de faire quelque chose pour justement tenter d'éviter les silences regrettables. Je vais dire ça comme ça, de façon un peu brutale, un peu verticale. Il y a des silences de mort. Quand quelque chose ne peut pas être dit, et d'une certaine façon, qui fait qu'on n'entend plus rien dans une parole, tant que la chose n'est pas dite, tant que le silence n'est pas levé sur ce qui devrait être dit, et les silences, on va dire, de vie, par lesquels il y a quelque chose du temps qui se trouve ponctué par le silence et qui fait qu'il y a un avant, un après, et que on se rend compte que ça fait quelque chose de parler. Voilà. C'est un silence qui m'appartient pas, mais que je me suis approprié dans ma vie.
J'ai reçu pendant de longues années une personne qui pendant 4 ans n'a rien dit et qui venait à ces séances régulièrement. J'ai eu 2 situations très intéressantes. J'ai eu cette personne qui ne parlait pas, bon, qui avait opté pour le silence dans son enfance et donc qui a passé toutes ces années à venir. Je relançais un peu, mais c'était pas dans le sens d'accorder, de détendre quelqu'un qui s'angoisse par rapport au silence. Non, c'était pour essayer de faire émerger quelque chose. Et ça ne venait pas. Et puis ça s'est défait petit à petit, cette posture silencieuse qui était un choix dans l'enfance, face à des situations familiales trop violentes, traumatisantes. Et puis, j'ai eu affaire aussi à une personne qui pensait que j'étais dans sa tête. Donc, qui parlait très peu, ou qui commençait une phrase et qui ne terminait pas. Et qui est venue très longtemps aussi. Mais les choses se sont... petit à petit,
quelque chose a pu s'énoncer tranquillement. Voilà, mais ça a duré de nombreuses années. Et bon, il a fini par, après m'avoir dit plusieurs fois, me demander plusieurs fois s'il pouvait arrêter, je n'ai pas répondu à cette question, je l'ai laissé faire. Et jusqu'au jour où il m'a dit que pour lui ça allait. Voilà.
Quand je pense à ce mot de silence, ce à quoi je pense d'abord, c'est à la musique. Là, je pourrais penser évidemment à d'autres choses. Je pourrais penser au silence des séances d'analyse. Bon. Dans une analyse, on sait bien que l'écueil le plus fréquent, c'est le récit. Bon. C'est la narrativité, la discursivité automatique. Bon. Les patients sont pris dans une pulsion de répétition. Qui racontent leur vie, bon. Et l'analyse commence toujours au moment où justement ils s'arrêtent et où il y a un silence, silence lourd. Enfin, il y a un silence qui tout à coup fait que leur récit va partir ailleurs, ou qu'on va partir dans autre chose qu'un récit, ou que tout à coup tout va se rejouer, c'est-à-dire que tout à coup la parole va déraper, dérailler et dériver, partir dans une errance qui est évidemment là pleine de sens, beaucoup plus que le récit ordinaire de leur vie, qui est un récit toujours bon, stéréotypé, tout fait, c'est le discours de l'autre, quoi, toujours, même s'il est singulier. Alors que là, au contraire, le silence est toujours le signe que y a une fêlure, il y a une rupture, il y a un fractionnement qui fait que tout à coup tout disrupte, tout part dans tous les sens et ils vont pouvoir se réinventer, ce qui est l'objectif d'une analyse évidemment. Alors c'est pour ça qu'il faut être très attentif à ce genre de silence, il faut savoir les respecter, les laisser se développer aussi long soit-il, et savoir les interrompre parfois ou pas.
On peut imaginer que dans le stéréotype courant, la mère est bavarde, la mère résout les choses par la parole et que le père les résout par son autorité naturelle, on va dire. Et donc il n'a pas besoin de parler. Après, on peut dire aussi une autre chose, c'est que moi j'ai un père qui était guide de montagne, qui était montagnard, donc il ne parlait jamais. Et il ne parlait pas à un point que celui qui est son enfant, pour comprendre, par exemple, ce qui se passait dans la montagne où on marchait avec lui, était obligé de regarder où il était ses pas et regarder qu'est-ce qu'il regardait, c'est-à-dire qu'il regardait dans sa direction. Et il était obligé de se construire un monde intérieur puisqu'il y avait du silence entre eux. Celui dont je peux mesurer l'étrangeté et l'altérité, et l'étrangeté totale, c'est celui dont je suis le plus proche, c'est-à-dire celui dont je peux mesurer que, le connaissant, je ne connais rien de lui. Alors que celui que je croise dans la rue, je ne sais pas s'il est étranger ou pas, puisque je ne peux pas mesurer l'écart qu'il y a entre nous. Et quelqu'un qui m'est très 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 proche, je peux mesurer son écart, je peux m'apercevoir qu'effectivement nous n'avons rien à voir ensemble, et donc là je peux mesurer l'étrangeté. Et cette étrangeté, c'est effectivement tout ce qui n'a pas été dit, ou tout ce qui fait silence entre nous. On peut dire que l'étranger, ou l'étrangeté, qui n'est pas l'étranger d'ailleurs, l'étrangeté, c'est cette quantité de silence qu'il y a entre deux personnes.
Je vais donner un exemple. Deux heures, j'ai lu une petite nouvelle d'un Hongrois qui est un spécialiste des langues, qui parle 10 langues, qui est dans un train, il traverse la Bulgarie, et il parle pas un mot de bulgare. D'accord ? Donc, il s'ennuie, c'est la nuit, il regarde un peu les paysages, qui ressemblent un peu à des taches d'encre, il n'y a pas vraiment de choses à voir, de temps en temps il y a une lumière qui apparaît, silence du paysage. Et arrive un contrôleur avec une petite lanterne, on est début 20e siècle. Petite lanterne, le contrôleur arrive avec une casquette comme ça, qui a l'air d'en s'ennuyer autant que lui. Et lui, qui est un linguiste, il se dit, il faut absolument que j'ai une conversation avec ce mec. Mais il ne parle pas un mot de bulgare. Alors, il connaît deux, trois phrases. Il connaît oui, non. Et il connaît une phrase, il dit, est-ce que vous voulez une cigarette? C'est la seule phrase qu'il connaît. Et donc, il demande au contrôleur bulgare, est-ce que vous voulez une cigarette? Et comme le mec a l'air de s'emmerder, etc., il dit oui. Alors, il lui tend une cigarette. Il a tellement bien dit cette phrase que l'autre pense qu'il est bulgare. Et donc, le contrôleur commence à parler. Parce qu'il a bien plein de choses à raconter. Alors, il parle. Et à chaque fois que le contrôleur regarde un petit peu si son interlocuteur comprend ce qu'il dit, lui, il dit oui. Enfin, les deux mots qu'il connaît, il connaît oui ou non. Quoi. Il dit oui. Alors le contrôleur continue à raconter ses trucs et il ne comprend rien. Et donc c'est juste par le regard et par les yeux, les sourcils, l'acquiescement, des petits moments d'hésitation, l'intérêt. Donc des attitudes physiques, corporelles, qui fait que le contrôleur continue à raconter son histoire, puis il lui sort une lettre de sa poche, il lui dit, mais voilà, tenez, lisez la lettre. Alors puis, il ouvre la lettre, c'est du cyrillique, je sais pas quoi, il comprend rien. Donc il fait style, il comprend la lettre, il lit la lettre, et puis il regarde le mec, et puis il acquiesce, comme ça, il fait, ah, oh, pff, oui. Alors l'autre continue. Et puis, alors l'autre voit que ça marche, l'histoire continue, donc il lui sort une photo. Alors il tend la photo, il prend la photo, et la photo, il montre la photo, et c'est une photo d'un chien. Alors lui, il commence à faire, ah oui, chien, oui. Oui, et puis là, le contrôleur, il n'a pas l'air du tout d'accord. Le chien, ça a l'air d'être plutôt un problème. Alors donc, le type, il fait, donc il se ravise, il fait, non. Alors là, ça compte, donc le mec, il... Le contrôleur, il est content, il voit qu'il est d'accord avec lui. Et puis, ça va plus loin, il sort deux boutons de manchette, qui sont un peu en os peint, comme ça. Alors, il lui tend. Alors, il les prend, puis il s'amuse un petit peu avec les boutons de manchette dans sa main. Et voilà, comme s'il connaissait beaucoup de choses sur les boutons. Et puis, il lui retend, et le mec continue à parler, il pouffe de rire, et tout ça, il passe par des états émotionnels complètement dingues, et lui, il fait toujours oui, enfin... Il est avec lui, quoi. Il n'a toujours pas prononcé un mot, en fait. Et à un moment donné, il lui dit non. Et là, le contrôleur s'arrête et ils sont en désaccord, quoi. Donc, il n'est pas du tout... ils sont plus ensemble. Et il se met sur le contrôleur se lève, il se met sur le rebord du train et il pose la tête sur son bras replié, comme ça. Et puis il commence à sangloter, il pleure. Alors le type se lève, il lui met la main sur l'épaule comme ça, et puis il lui fait non dans l'oreille, non. Et là le mec pleure de plus en plus, et il se retourne vers son interlocuteur, le contrôleur, et il lui dit de manière très sèche, dans des tons de phrases très rythmés, très sèches, du genre... Comment t'as pu me dire un truc comme ça? Comment tu peux pas être d'accord avec moi? Et quitter pour me dire ça? Etc, etc. Donc de manière très marquée, du genre comme un jugement, quoi. Et le type dont on parle, qui ne parle pas le bulgare, il veut pas perdre la face, donc il regarde de manière très très hautaine en disant, mais comment tu peux penser que... Il ne parle pas. Il le regarde juste en disant, mais comment tu peux penser que j'ai pu penser un truc pareil? Et il se jette sur sa couchette, il met la tête dans l'oreiller, et puis hop, comme s'il avait eu un arrêt du cœur, ou s'il dormait, et il laisse le contrôleur comme ça. Et le contrôleur part. Et la nuit passe, et le lendemain matin, le contrôleur revient dans la cabine, et il lui dit, en tout cas il se fait comprendre comme ça, que c'est son arrêt, et qu'il doit sortir du train, il prépare ses valises, et donc il y a des porteurs de valises qui mettent les valises du type dehors, il se retrouve sur le quai de la gare. Et le contrôleur du train qui est sur le marchepied du train, qui le regarde et qui fait « Mais comment tu as pu être comme ça ?» Et notre camarade linguiste qui est sur le quai qui fait « Mais comment tu as pu penser ce que j'ai pensé ça ?» Donc ils se regardent un peu de manière hautaine tous les deux. Et le train va partir et à un moment donné, le gars le regarde. Donc le linguiste regarde le contrôleur qui est sur le train et il lui dit « Oui !» En partant, il lui dit « Oui ! Oui !» Et le contrôleur a les yeux qui s'éclairent, il devient jovial, et il lui fait un grand signe comme ça sur sa casquette, de salut militaire sur sa casquette, et il part comme ça avec son train, Et en fait, ils se sont mis d'accord, enfin, ils se sont rejoints avec simplement ce mot.
Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву.
Som var ordet. Varför det, pappa?
Au commencement était le verbe. Pourquoi, papa?
Martine, qu'est-ce que c'est pour toi le silence? Est-ce que tu pourrais me donner un exemple?
C'est par exemple quand il n'y a aucun bruit, que personne ne parle. Et qu'on n'entend plus rien. Bah, par exemple, dans les églises. Ou pendant la nuit.
Silence. Merci à André Markovitch, Jacqueline, Sonia Vidarterton, Sonia Alvarez de Toledo, Loire Maria.
Violette Astier, Jean-Luc Nancy, Claudine Nougaret, Raymond Depardon, Tanguy Viel.
Ramon Chomata, Bertrand Ogilvy, Augustin Trapenard, Marie Richeux, Samuel Liévin.
Sophie Pierre, Nicolas Frise, Jack Souvent, Maria Nikiforova et Kim Gillon.
Mixage Cédric Chatelus. Archivina, Marine Decamp. Merci également à Aurélie Charon et Inès Duperron.
Une émission d'Adrien Chevrier
et Gaël Gillon.
On se retrouve dimanche prochain à 22h dans l'expérience avec moi, Victoria, 18 ans. Rémi Dibowski-Douatte fait entendre un collage sonore, un instantané de la vie d'une jeune fille qui devient adulte, Victoria, un être en devenir. En attendant, vous écoutez France Culture, il sera bientôt 23h et c'est l'heure des nuits.